Chers amis, bonjour. En ce samedi, nous continuons ensemble notre chemin d'écoute de la parole de Dieu. C'est un beau chemin. Lorsque nous voyons les difficultés traversées par des personnages particuliers ou par le peuple dans son ensemble, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous pouvons puiser beaucoup de force pour notre propre chemin, ensemble, personnellement et en communauté. Alors, les 3 premiers jours de cette semaine, pour ceux d'entre vous qui avaient déjà suivi le début du parcours, nous avons marché avec l'Ancien Testament. Nous avons découvert Gédéon, Jérémie, l'exil à Babylone. Avant-hier et hier, nous étions avec les apôtres sur le chemin d'Emmaüs et dans les premiers temps de l'Église à Jérusalem. Le samedi et le dimanche, je vous propose de méditer sur des situations difficiles que Jésus lui-même a traversées. Jésus n'a pas fui les épreuves. Elles font partie de l'humanité. Au contraire, plus que tout homme, Jésus a vécu l'épreuve. Et, ce faisant, il nous permet de vivre nos propres épreuves avec lui. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous regardions simplement comment se sont passées les premières semaines du ministère public de Jésus, telles qu'elles nous sont racontées dans l'évangile de Marc, dans les 3 premiers chapitres. Je vous propose donc de parcourir ces quelques premières pages de l'évangile de Marc. Jésus vient d'être baptisé par Jean au Jourdain, il vient de connaître les tentations au désert. Jean-Baptiste a été arrêté et Jésus a préféré vivre son ministère non pas en Judée, là où se trouvait Jean, mais en Galilée. Et il commence par appeler 4 disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. Dans l'évangile de Marc, la première scène de la vie publique de Jésus se passe dans la synagogue de Capharnaüm, nous est raconté dans le premier chapitre de Marc, les versets 21 à 28. Jésus, comme d'autres maîtres juifs, y enseigne, mais il le fait avec un style autoritaire qui étonne les auditeurs. Et surtout, cet enseignement est interrompu par un possédé, aujourd'hui on dirait peut-être un cinglé, qui commence à crier dans la synagogue. Que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Il y a quelque chose d'absolument effrayant dans cette scène. Mais Jésus prend la situation en main, et il répond avec la même force. Tais-toi et sors de cet homme. L'homme est violemment secoué et continue à crier avant que, visiblement, le démon ne sorte de l'homme. Les spectateurs ressortent absolument effrayés de cette scène surréaliste. Et un petit peu partout, on commence à parler de Jésus en se demandant un peu de quoi il en retourne. Après ce premier miracle, Jésus guérit beaucoup plus discrètement la belle-mère de Pierre et beaucoup de possédés et de malades avant de partir seul au désert. Pourquoi est-ce que Jésus part au désert? Pour prier, certainement, peut-être aussi pour se laisser guider par son Père. Jésus, qui est vraiment homme, se pose des questions et certainement il demande à son Père comment entreprendre la mission qui lui est confiée. Est-ce qu'il faut qu'il enseigne, qu'il exorcise, qu'il guérisse? Est-ce qu'il faut qu'il rassemble des disciples particuliers ou plutôt qu'il s'adresse aux foules? Où est-ce qu'il doit aller? En Galilée, à Jérusalem? Voyez, Jésus, comme homme, est passé par toutes les étapes de la prière, de la réflexion, de questions par lesquelles tout homme passe. Jésus sait bien que de nombreuses rumeurs circulent sur son sujet, plus ou moins positives. Comment est-ce qu'il doit réagir? Est-ce qu'il doit faire autrement? Alors Jésus, dans la prière, dans ce temps qui passe avec son Père, prend la décision, plutôt que de rester à Capharnaüm, de parcourir la Galilée. Il dit à ses disciples qui venaient le chercher, Allons ailleurs, dans les villes voisines, afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Mais en chemin, il rencontre un lépreux qui commence à le provoquer. Après quelques courbettes, il lui lance une sorte de défi. Tu n'as qu'à vouloir pour que je sois purifié. Et Jésus se sent pris au piège. S'il le guérit, il n'aura au fond fait qu'obéir à cet homme. Et s'il ne le guérit pas, il aura manqué de compassion et son autorité sera peut-être remise en cause. Jésus, qui est animé peut-être à la fois par de la colère et de la compassion, guérit cet homme, mais il lui demande de ne pas en parler, juste d'aller apporter au prêtre l'offrande prescrite. Mais voilà que cet homme commence à faire la publicité de cette guérison. On sort de partout pour voir Jésus, ou plutôt pour lui sauter dessus. Jésus avait pris la décision d'aller dans les villes, et bien le voilà maintenant obligé de rester dans les lieux déserts, voire de se cacher. Alors ensuite, si on continue l'évangile de Marc, après quelques scènes plus ou moins paisibles, ce chaos trouve un sommet, un jour où Jésus est au bord du lac. Je lis dans Saint Marc, Jésus avec ses disciples se retira vers la mer et une grande multitude le suivit, de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la Transjordanie, des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude ayant entendu tout ce qu'il faisait vint à lui. Il dit à ses disciples qu'une petite barque fut tenue à sa disposition à cause de la foule pour qu'il ne l'écrase pas. Car il en guérit beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se jetaient à ses pieds en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Il leur enjoignit avec force de ne pas le faire connaître. Et un petit peu plus loin, il vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble au point qu'il ne pouvait pas même manger de pain. Et les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car ils se disaient « Il a perdu le sens ». Vous voyez, on peut s'imaginer la scène de bien des manières, mais une manière de voir assez naturelle, c'est de reconnaître que c'est une scène absolument chaotique, dans laquelle Jésus semble comme dépassé par les événements, et même d'ailleurs en danger de mort. La foule risque de l'écraser, il n'a plus le temps de manger. Et ce qui, au fond aussi, permet de comprendre la démarche de sa famille qui vient le chercher, qui veut le protéger en le sortant de ce mauvais pas. Alors par la suite, nous verrons que Jésus développe son ministère assez différemment. Il accomplit peut-être moins d'exorcismes, il dit plus de paraboles, il se concentre sur la formation de ses disciples, il change plus régulièrement de lieu, et on verra effectivement que son ministère sera beaucoup moins chaotique, un petit peu comme si Jésus finalement s'était adapté à cette situation difficile. Dans la lecture que je viens de vous proposer, il y a, comme dans toute lecture au fond, une part d'interprétation. Vous voyez, lorsque je lis le texte biblique, je l'imagine, je le comprends, à partir de ce que je suis, à partir de mon intelligence, de mon imagination, de ma sensibilité, etc. Alors, vous voyez, la lecture que je vous ai proposée dans ces chapitres de Marc, elle permet en tout cas de prendre conscience du fait que le ministère de Jésus n'a pas nécessairement été vécu d'une manière évidente. Parfois, on a l'impression que pour Jésus, tout est facile, puisqu'il peut faire des miracles et il connaît tout. Non, c'est plus compliqué que ça. Nous connaissons, et nous aurons d'ailleurs l'occasion de méditer dessus dans d'autres étapes, des épreuves de Jésus au moment de sa naissance, et puis à la fin, lors de sa passion. Mais ces épreuves n'ont pas été mises entre parenthèses dans son ministère public. Ces épreuves, elles ne sont pas uniquement des épreuves extérieures, celles qui lui sont infligées à cause des contradictions, à cause des personnes extérieures, des calomnies, ou même les coups qu'il a pu recevoir. Il y a aussi, au fond, des épreuves intérieures. Et par exemple, on peut voir Jésus qui souffre de la mort de Jean-Baptiste ou de l'abandon de ses amis. Jésus, ce n'est pas un surhomme avec la science infuse qui maîtriserait toutes les situations avec son intelligence et sa puissance divine. Jésus, il vit jusqu'au bout son humanité, y compris lorsqu'il doit s'adapter à des situations, lorsqu'il doit réagir à des circonstances diverses. Il s'étonne des événements, il souffre dans des événements imprévus. Et au fond, ça peut nous rassurer. Si nous connaissons des échecs, d'une certaine manière, c'est aussi le cas de Jésus. Tout ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Et en cela, d'ailleurs, il respecte aussi notre liberté et la liberté de toutes les personnes qu'il a rencontrées. Et quelle que soit la manière dont nous vivons la situation actuelle, chacun d'entre nous est confronté à de l'imprévu. Personne n'avait prévu la situation dans laquelle nous sommes. Et tous, au fond, chacun à notre manière, nous devons nous réadapter. Ce n'est jamais très agréable. Certains ont peut-être un caractère qui les aide à accepter plus facilement l'imprévu, d'autres moins. Mais quoi qu'il en soit, nous pouvons nous unir à Jésus dans ces moments, sans nous durcir dans ce que nous avions imaginé, mais en accueillant les lumières de l'Esprit-Saint pour comprendre comment réagir de manière adaptée à des circonstances nouvelles. Alors depuis plusieurs mois, la situation sanitaire nous impose des conditions de vie nouvelles. Et puis depuis une semaine, plus particulièrement, notre cadre de vie a encore changé. Alors, ce que je vous propose pour aujourd'hui, en méditant sur le ministère public de Jésus, c'est de prendre simplement le temps de se demander de quelle manière le Seigneur m'appelle à vivre cette situation nouvelle. Belle journée avec Dieu.